VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Actualité aux États-Unis, troisième journée de la convention nationale du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio, aujourd'hui. Donald Trump est désormais le candidat du parti au présidentiel de novembre après son investiture à ce poste hier par les délégués à la Réunion. Le milliardaire veut maintenant réunifier les républicains avant d'affronter aux élections Hillary Clinton, la candidate présumée du Parti démocrate. Pour le programme des activités à la convention ce mercredi, rejoignons tout d'abord l'un de nos envoyés spéciaux à Cleveland, Nicolas Pineau.
Tout le monde attend deux discours. L'un, celui du sénateur Ted Cruz, qui a été un adversaire farouche lors du processus des primaires contre Donald Trump. Et c'est important, puisqu'on parle d'unité du Parti républicain. C'est un exemple. On ne sait pas vraiment ce qu'il va dire. On ne sait pas s'il va se rallier à Donald Trump pleinement ou plutôt critiquer Hillary Clinton. Mais en tout cas, cette présence est très importante. Et puis le discours le plus important de la soirée, ce sera celui prononcé par le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Il est le colistier de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il deviendrait vice-président des États-Unis en cas de victoire lors de la présidentielle de novembre prochain. Mike Pence le dit lui-même, je suis un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Alors tout le monde attend ce grand discours. À noter que Donald Trump sera à nouveau présent ce soir ici à Cleveland. Nicolas Pineau, Cleveland, VOA Afrique.
Le candidat à la vice-présidence Mike Pence est donc à l'honneur aujourd'hui, l'occasion de parler de son poste de la vice-présidence. Quels sont les critères de sélection d'un candidat à la vice-présidence? Que cherche un candidat à la présidence dans son colistier? La réponse avec notre autre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Sedoudia.
En général, c'est par souci de dosage ou équilibre idéologique ou régional que l'on choisit son colistier pour mieux unifier le parti. Mais Henri, il faut dire que ça aide rarement. Par exemple, en 2004, le libéral John Kerry du Massachusetts avait choisi son rival John Edwards, un sudiste et conservateur, mais cela ne l'a même pas empêché de perdre même l'état natal d'Edwards, la Caroline du Nord.
Parlons maintenant de l'importance de la vice-présidence. Pendant longtemps, il a été dit que les vice-présidents allaient simplement aux obsèques. En fait, ils ont beaucoup plus d'importance que cela depuis Jimmy Carter, par exemple.
Ça a commencé avec Jimmy Carter, qui avait promis à Walter Mondale d'en faire vraiment son partenaire. Et il faut dire qu'aussi, Walter Mondale avait beaucoup plus d'expérience que Jimmy Carter pour ce qui est de Washington. Il était sénateur du Massachusetts, était aussi l'un des alliés d'un des grands personnages du Parti démocrate, l'ancien vice-président Hubert Humphrey. Donc, il avait besoin de Mondale et sincèrement, ils ont eu un partenariat très fructueux.
Concernant Mike Pence, qu'est-ce qu'il apporte à Donald Trump?
Bon, c'était pour rassurer la base conservatrice du parti, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui pensent que Donald Trump est plutôt suspect quand il s'agit des programmes traditionnels du Parti républicain, quand il s'agit des programmes sociaux, quand il s'agit des questions sociales, en somme du budget, de l'économie, des impôts, que Donald Trump est suspect dans ce domaine. Alors, donc, il leur fallait un conservateur bon teint, et ce conservateur bon teint, il n'y a pas de doute, Mike Pence l'est.
Merci Idrissa. C'était Idrissa Sedoudia, un de nos envoyés spéciaux à Cleveland, dans l'Ohio.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Afrique maintenant, au Mali, le bilan de l'attaque contre l'armée malienne à Nampala dans la région de Ségou est passé de 12 à 17 morts, plus 35 blessés. Des chiffres qui font grincer les dents au niveau de la population malienne, d'autant plus que les soldats attendent avec impatience de connaître l'identité des victimes. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Pour la énième fois, les positions des forces de sécurité et de défense du Mali, les FAMA, ont fait l'objet d'une attaque d'assaillants lourdement armés à Nampala, dans la région de Ségou. Cette attaque est doublement revendiquée par une Katiba d'Ansardine et l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité PIL. Suite à cette attaque, les FAMA déplorent 17 morts et 35 blessés. Du matériel militaire a également été emporté ou endommagé par les assaillants. Ce bilan fait monter la tension dans la capitale sociale malienne, surtout au niveau des associations des jeunes et les organisations de la société civile, qui ne comprennent pas comment les soldats maliens se font avoir de cette manière. Chez les parents des victimes, c'est toujours l'impatience, car l'identification des corps est toujours en cours. À chaud, le président Ibeka a organisé un conseil de défense au cours duquel il a donné les orientations. Le gouvernement malien, de son côté, a rassuré la population que les mesures sécuritaires et militaires ont été prises. À Kidal, deux personnes ont perdu la vie au cours d'une dispute née de la vente d'un véhicule. L'un est membre du HCIA, alors que l'autre est du Gatia, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique du Nord, trois militaires français sont morts dans un accident d'hélicoptère en Libye. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président français François Hollande, confirmant ainsi pour la première fois la présence de soldats français dans ce pays. La Libye connaît une instabilité dangereuse. C'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes, a affirmé le président Hollande. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement dans ce pays, a-t-il souligné. En Tunisie voisine, le président belge Kaïd Essebsi a annoncé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier. Le point avec Chérubin Dorsil.
La mesure annoncée hier par la présidence entre en vigueur demain 21 juillet. Elle accorde aux autorités le droit de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder l'ordre public et la sécurité nationale. Notamment, elles pourront interdire les grèves, empêcher certains rassemblements, fermer provisoirement des commerces et exercer un certain contrôle sur les médias. L'état d'urgence a été instauré en Tunisie en novembre dernier suite à un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. C'était le 3e attentat de l'année revendiqué par Daesh. Les djihadistes ont récidivé en mars de cette année en attaquant des installations sécuritaires à Ben Gherdan, ville limitrophe de la Libye.
Kenya, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, accuse les forces de sécurité kenyanes de se livrer à des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires dans le nord du pays contre des personnes qu'elles soupçonnent de lien avec les djihadistes Shebab somaliens. 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. Alors que la pandémie a déjà fait plus de 30 millions de morts, les participants à la rencontre de Durban ont fait le constat que les recherches de remèdes prendront encore du temps. En attendant, il faudra poursuivre les efforts de prévention. On écoute le docteur Zogo, un médecin s'occupant de personnes vivant avec le VIH à Cape Town, en Afrique du Sud.
Juste avant l'ouverture officielle, il y avait des associations et des organismes réunissant les malades de VIH et avec un message strict disant s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, il n'y aura pas moyen de stopper le sida. Et c'était un message lancé pour que le financier puisse mettre la main à la pâte pour qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans les domaines. L'Organisation mondiale de la santé a pris la nouvelle stratégie de pouvoir tester et soigner. Mais déjà, ici en Afrique du Sud, on parle d'appliquer cette nouvelle stratégie au plus tard au mois de septembre. Et il y a déjà des discussions au niveau des pays des BRICS. Les BRICS réunis, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ils voudraient voir au niveau du BRICS comment implémenter cette nouvelle stratégie.
Le docteur Zogo joint à Durban en Afrique du Sud. La lutte contre le djihadisme maintenant, au moment où des représentants de la coalition internationale contre le groupe État islamique se rencontrent à Washington, l'agence policière européenne Europol publie aujourd'hui un rapport sur les activités terroristes en Europe. Un rapport inquiétant, Anastasie Tudiech.
Selon Europol, 6 États membres ont fait l'objet de 211 attaques qui ont échoué ou ont réussi et 1077 personnes ont été arrêtées pour terrorisme. Le nombre de victimes a bondi en Europe en 2015 par rapport à 2014. Le rapport anticipe une intensification des activités du groupe État islamique qui perd du terrain en Syrie et en Irak. Si Europol admet ne pas disposer de preuves que des terroristes ont infiltré les réfugiés en Europe, le rapport affirme que les demandeurs d'asile syriens seraient susceptibles de radicalisation. Et Europol de mettre en garde, une nouvelle vague de fanatiques formés d'enfants de combattants pourrait voir le jour. Le groupe État islamique semble favoriser des attaques contre des cibles vulnérables. comme à Nice en France la semaine dernière, quand un homme au volant d'un camion a tué 84 personnes. L'agence policière européenne indique enfin que les extrémistes utilisent de mieux en mieux Internet et les médias sociaux.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.